parti pour la deuxième chronique de cette soirée. La première pour toi, ma chère Paraquette. Et tu vas nous parler, tu vas nous faire bosser un peu, entre guillemets, après l'émission, le lendemain, oui. Et nous inciter à cuisiner, parce que c'est toujours mieux.
D'accord. Tout à fait, il va falloir faire des courses, du coup.
D'abord.
Donc, on va parler cuisine, du coup, aujourd'hui. Je vais notamment présenter deux recettes, une salée et une sucrée. Donc voilà, ça va faire en gros plat dessert, hein, comme ça on reste bien dans la thématique repas.
Et en plus
de ça, voilà, ça sera pour demain. Je vais vous faire manger des légumes, comme ça vous allez bien me détester après ça.
Ouais, je vois pas la pluie déjà commence à s'affaisser sur ton stage.
Alors, moi je tiens à préciser, ma femme est diététicienne, donc
d'accord.
Ça va.
Tu
es encore assez. J'ai pas le choix, donc je suis. Voilà.
Bah, c'est plutôt bien, c'est une bonne chose, non?
Je lui en veux pas en tout cas, je lui en veux pas pour ça.
Bon, du coup, pour la recette salée, je vais vous faire manger une tarte au fenouil. Alors, c'est particulier, je sais. Faut savoir que j'ai aussi sélectionné des plats de saison, parce que, avec des légumes de saison notamment. Parce que c'est important de manger de saison, on est d'accord. Oui. On va pas consommer des tomates en plein hiver ou quoi. Enfin voilà.
D'abord,
tomates,
parce
c'est quasiment
que
fini normalement. Alors.
Déjà,
oui,
ça a
voilà.
Et que
ça a pas de coût.
Et que ben quand vous calculez le coût carbone de cette histoire d'une tomate qui traverse la moitié du continent ou qui vient d'Afrique, effectivement, ça a pas trop de sens non plus.
Moi, ouais, les tomates cerises voilà. De mon balcon, elles donnent encore sur mon.
Qui donnent encore. Ouais. Généralement, quand c'est pas sous serre, quand c'est en extérieur, les tomates vont être assez tardives. Généralement, voilà, c'est le cas de plein d'autres fruits et légumes. Et du coup, voilà. Donc là, on est en plein automne. C'est la saison. Il y a plein de nouveaux légumes qui arrivent après l'été. C'est la saison des courges notamment. Et en ce moment, c'est également la saison du fenouil. Pourquoi j'ai choisi le fenouil? Parce que je pense qu'on n'est pas très nombreux à en manger. Je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus.
J'en mange
hein.
Pas tous les jours, en effet.
Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. J'adore ça.
Bah, c'est un peu particulier le fenouil hein, quand même, parce que bah, c'est un légume qui a un goût assez prononcé, un goût anisé, très très anisé notamment. Moi-même, je n'aimais pas ça du tout avant. J'en mange
avant
pas.
De voir Kaamelott, parce qu'il est dans Kaamelott.
Ah bon, je ne savais pas, tu vois. Je savais même pas, mais c'est vrai que c'est un légume qui est très particulier, très anisé en goût. Personnellement, je suis pas du tout fan de ça, faut le savoir, et c'est aussi pour ça que je vous propose cette recette là parce qu'au final, j'ai réussi à trouver une recette où j'arrive à le manger mais sans problème. Et je pense que ça peut du coup en intéresser pas mal si même vous voulez tester, ça serait une recette assez simple au final à faire. C'est voilà, ça va beaucoup ressembler à une quiche lorraine, mais ça reste quand même bien différent. Voilà. Donc, de ce fait, le fenouil, va falloir quand même le cuisiner un petit peu, le cuire notamment. Alors moi, dans ma recette que je vais vous présenter, donc ça va être en tarte, il faudra le cuire avant, bien entendu. Personnellement, je vais le cuire donc dans un cookéo.
Donc le cookéo qu'on voit ici.
Voilà, vous le voyez normalement voilà, sur l'image ici. Cookéo, c'est très très bien. C'est l'équivalent d'une cocotte minute si vous voulez, mais c'était un autocuiseur. C'était.
Il y en a pour tous les prix et à toutes les bourses d'ailleurs. Voilà. Hein. Vous êtes obligé de vous ruiner s'il y en a à 1000 balles et plus.
Je dirais c'est l'équivalent du Thermomix un petit peu, mais voilà. Beaucoup moins cher et avec vraiment une fonction sous pression qui est au top. En termes de qualité-prix, il n'y a pas mieux. Vraiment, je le conseille.
Voilà. Et ce n'est pas sponsor.
Le vendeur, je viens d'en commander un sur internet. Voilà,
voilà c'est fait.
Voilà, c'est fait.
Bon, c'était la petite pub cookie au ça.
Pour ceux qui mais si en autre fenouil. Un fenouil, il y en a un en haut à gauche. Ouais.
Oui, c'est vrai que j'ai pas mis de photo très très visible du fenouil.
Tapez fenouil sur Google.
Voilà, c'est en gros un gros bulbe avec quatre tiges vertes qui vont sortir un petit peu feuillues. Donc voilà.
Ça ressemble à Groot.
On dirait un Pokémon.
C'est ça.
Oui, c'est vrai que ça ressemble à Groot. Donc voilà, ce cookéo, du coup, on va le découper, on va retirer les tiges. Moi, je découpe en cubes. Après, dans certaines recettes, ou notamment celle-là, on peut aussi le couper juste en deux et garder une grosse partie du bulbe, juste la moitié, en fait, qu'on va placer dans la tarte. Personnellement, je le coupe en cubes. Je trouve que c'est une manière déjà plus simple de le pré-cuire mais aussi de le consommer plus facilement. Ça sera peut-être, ça peut, je pense que ça passe mieux si vraiment on a du mal avec le fenouil, pour le consommer comme ça en cube. Donc voilà. Si vous n'avez pas de cookéo d'ailleurs, bien entendu, vous pouvez le cuire dans une cocotte, vous pouvez le cuire à l'eau également. C'est plus long, c'est sûr. Généralement, il faut compter une trentaine de minutes, mais c'est une solution qui marche tout autant hein, que le cookéo. C'est juste un peu plus long.
Là, avec la technique cookéo, c'est combien de temps de
10 minutes. Préparation. Comme affiché sur l'écran. Alors, la photo avec la technique cookéo, au cookéo, le fenouil il va cuire 10 minutes. Voilà.
D'accord.
C'est très rapide ça va. Avec ça. Donc voilà, donc on commence par couper notre fenouil, on va le cuire. Une fois qu'il est cuit, on va s'occuper du montage de la tarte. Donc on déplie notre pâte à tarte, voilà, n'importe quelle pâte. Moi personnellement, j'aime bien faire mes pâtes à tarte maison, mais je ne vais pas vous lancer de recettes. Là, j'en ai pris une toute faite pour vous montrer.
Question sur les pâtes à tarte, moi je les pique toujours à la fourchette. Ouais. C'est un mythe ou
Il faut le faire. Il faut le faire, c'est
moi,
pour éviter qu'elle gonfle.
Moi je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, mais qui est-ce premier à avoir dit ça?
Il faut piquer la pâte à tarte, effectivement, sinon elle va gonfler, en fait, s'il n'y a pas assez de poids à certains endroits, ça va gonfler, ça va se soulever, ça va déformer un
c'est
peu la...
D'accord, je savais pas pourquoi je le faisais. T'as l'air chaud qui s'accumule sous la pâte et qui peut former des mini montgolfières sous ta pâte.
Parce que moi, on m'a dit de le faire il y a des années, mais j'ai suivi comme un connard. J'ai dit, ok, j'ai jamais demandé pourquoi, c'est la première fois que je demande pourquoi.
Voilà. Ouais, non, mais c'est bien de demander, c'est bien. Oui, voilà, il n'y a pas de questions cons, c'est clair.
Il n'y a que des cons, par contre.
Donc voilà, on étale notre pâte, on la pique avec une fourchette, un couteau, n'importe quoi. Et ensuite, bah, du coup, on va utiliser de la moutarde. Donc il y a la moutarde dans la recette. On met l'équivalent d'une cuillère à soupe de moutarde sur le fond de la tarte pour apporter un petit peu de goût. Et vraiment, on sent la différence, du coup, à la fin. Vous verrez, si vous n'êtes pas trop moutarde, n'en mettez pas trop. Si vous aimez bien ça, vous pouvez en mettre, mais il ne faut pas non plus abuser pour pas que ça prenne le dessus en termes de goût.
On peut mettre de la moutarde pas trop forte aussi.
Mmh. Oui, voilà.
La mi-forte.
Ouais, tout à fait. Ouais, mi-forte, c'est bien. Ouais, ouais. Donc voilà, vous mettez ça. Dans notre recette, donc, on a du fenouil, mais également du jambon. Donc voilà, vous prenez 2 à 3 tranches de jambon, suivant la taille. Vous le coupez en dés. Et donc voilà, on va tout placer ensuite sur notre pâte au-dessus de la moutarde, le jambon et le fenouil cuit. Voilà, vous placez le tout. Et ensuite, il faut préparer l'appareil. L'appareil, ça va être ce qui va... comment décrire ça ? Consolider un peu... voilà, c'est votre pâte. La pâte...
Qui va lier, c'est le liant.
Voilà, le liant.
on a un spécialiste, on a un professionnel avec nous.
Oui. Donc voilà, là on peut passer du coup au montage photo suivant. On va retrouver du coup, pour faire l'appareil, donc il va nous falloir 3 œufs, 20 centilitres de crème liquide. Et là j'utilise dans cette recette du fromage de chèvre frais que je vais émietter et mélanger donc avec mes œufs et la crème liquide. Voilà, on mélange le tout dans un saladier.
Ah ouais.
On bat bien.
Ça doit être bon ça, ça doit être bon.
Ouais.
Mais attends,
J'avoue que là,
le
j'avoue,
goût doit être puissant, mais justement, ça doit. Bah, le fenouil doit passer nickel, en effet.
C'est ça. Le but, c'est que si on a un petit peu de mal aussi avec le fenouil, c'est de pas trop le sentir et d'avoir un autre goût à côté qu'on apprécie,
moutarde,
comme le fromage,
chèvre, oui.
Le jambon, la moutarde. Voilà, ça passe très très bien comme ça pour le coup. Donc voilà, on a notre mélange œufs, crème liquide, fromage frais. On assaisonne avec poivre et sel. Et ensuite, donc, on verse le tout dans notre tarte. On verse le tout. Après, pour ceux qui veulent, on peut ajouter du gruyère râpé dessus. Moi, je le fais pas. J'évite. Enfin, il y a déjà du fromage dedans, mais après, c'est au goût de chacun. On peut rajouter ça pour ajouter un petit côté gratiné. Donc voilà, ensuite, on enfonce tout ça à 180 degrés au four pendant 30 à 35 minutes.
Et paf.
Et paf, et ça fait votre tarte au fenouil. Voilà.
Ah, moi, j'ai deux questions.
Oui, vas-y.
Déjà, on goûte quand?
Quand est-ce qu'on en reçoit?
Déjà la première.
C'est vrai que j'avais
dit ça. Ah non, mais bon, avec... voilà.
Je suis désolée, voilà. Mais celle qui est en photo, elle est déjà plus là, en fait.
Oh, quel dommage.
Et par la poste, elle aurait mis un petit temps à arriver.
Et donc, mais c'est une recette que tu as trouvée ou c'est toi qui as justement cherché à...
Alors, j'en ai trouvé une que j'ai adaptée ensuite à ma façon. Parce
ok, c'est ça.
Je peux la détourner de n'importe quelle façon aussi. D'ailleurs, je l'ai précisé, voilà, dans la recette que vous avez écrite ici, on peut apporter des variations, comme notamment remplacer le jambon par un mélange de lardon-oignon qu'on va faire poêler avant de le mettre dans notre tarte. Si ça permet, si vraiment on a du mal avec le goût du fenouil, ça va permettre de masquer un petit peu plus, là encore, le goût du fenouil. Et ensuite, on peut également remplacer le fromage de chèvre frais par un autre fromage de type boursin, ail et fines herbes, ou alors n'importe quel autre fromage frais à tartiner, voilà. Ouais. Mais si possible, quelque chose qui est quand même du goût, un goût assez prononcé, pour éviter d'avoir trop de fenouil en termes de goût.
T'es vraiment pas bien, hein,
alors, peut-être pas trop
on
non
part,
plus.
On part tout de suite dans les extrêmes, quand
même. Tout de suite vers le nucléaire, quoi.
Direct.
Le mieux, c'est quand même de rester sur un fromage de type frais, hein. pas non plus un fromage trop pâteux ou trop sec. Hein. Okay. Donc voilà, j'ai pas testé la variation lardon-oignon, mais je pense sincèrement que ça peut passer. Ça serait l'équivalent d'une quiche Lorraine, un petit peu, mais avec du fenouil du coup. Enfin, après, ça dépend comment on fait la quiche Lorraine.
Ce qui est bien, c'est qu'on peut adapter vraiment, on regarde ce qu'il y a de saison, et après, t'as ta pâte, et après, en avant, quoi.
C'est ça.
Tu varies les légumes, le fromage, effectivement.
C'est vrai que moi, les quiches, je fais souvent avec, soit je varie, soit je mets du jambon, du thon, ou du poulet. Moi, je varie pas les légumes, moi, je varie.
de la viande.
Excusez-moi, moi, je suis un carnivore.
Je comprends ta douleur.
En termes de variation, je pense plus aux légumes qu'à la viande.
Je mets toujours des oignons, mais après, oui, si, tomates ou courgettes, genre de choses.
Des tartes aux légumes, ça se fait beaucoup, ouais, tomates, courgettes, avec un peu de thon. Enfin, il y a plein de variations différentes et au final, c'est très facile à faire. On peut improviser aussi. Hein, à la base, on part d'une pâte à tarte. Ensuite, pour faire l'appareil, ça va être des œufs, de la crème liquide, du fromage râpé. Ensuite, on met un peu tout ce qu'on veut et puis on a notre tarte, quoi.
Il y a Nemo sur le chat qui parle de boulette d'avenne. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à un jour rester.
Je ne sais pas.
J'avoue, je ne connais pas.
C'est du fromage. Très très. Oui, mais alors très 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 fort, vraiment.
D'accord.
Courage.
Ah. Vous nous ferez des retours sur les réseaux sociaux.
La recette à boulette d'avenne.
D'ailleurs, je l'avais dit tout à l'heure, mais je le redis, qu'on avait fait un sondage Twitter en amont de l'émission. Et quand même pas mal de gens, donc sur quelques votants, on avait 33% de gens qui font beaucoup la cuisine, 58% qui, c'est de temps en temps, 8 pas trop et 0 pas du tout. Donc, globalement, les gens essayent de faire à manger, de se faire plaisir. Donc,
moi, je veux dire que j'aime agréable. Beaucoup ça, prendre le temps parfois de faire de la cuisine.
Pour soi ou pour les autres,
c'est agréable comme activité. Mmh.
Ah, mais moi, je consacre au moins une matinée par semaine uniquement à ça, hein, où je peux faire plusieurs plats d'un coup. Pour vous dire, je fais même mon pain maison et du pain au levain, ça prend du temps, ça aussi.
C'est mon pain
préféré,
moi, le pain au levain, j'adore ça.
Ouais, moi, je le fais maison avec un levain qui a presque 2 ans
d'âge maintenant. Tu l'enverras à Papla par la poste dans un temps.
Voilà, donc l'adresse, je t'enverrai l'adresse MP, hein, bien sûr.
Pendant le confinement, j'ai essayé le pain. Effectivement, c'est une activité... c'est long
prenante.
Et tu peux facilement rater en fait parce que ça peut ne pas avoir de goût ou ne pas monter, etc. C'est assez compliqué,
c'est ça,
le pain finalement.
Ça peut être complexe, oui, c'est sûr. Il faut du temps de pouce, faut une certaine température, faut pas de courant d'air. Après, ça dépend, il y a beaucoup de choses.
Entre
ailleurs,
t'as de la chance
qu'elle
soit passée inaperçue.
Bah, elle est bien, ma blague, m'en fous. M'en fous, je suis content de mes vannes.
Alors,
content,
ici, on passait au dessert.
C'est ça.
Voilà, on va passer au dessert du coup. Alors, on va parler du gâteau invisible.
Il est invisible et pourtant on le voit.
Mais oui, alors, qu'est-ce que c'est le gâteau invisible? Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment il y a peu de temps, il y a 2 semaines de ça, je crois. J'ai découvert que c'était même une tendance actuellement, en cuisine en tout cas, tendance culinaire. Et donc, en fait, le gâteau invisible, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être un gâteau particulier, généralement à base au moins de fruits, donc généralement de pommes, la plupart du temps en termes de fruits, mais ça, on peut faire ça avec n'importe quel fruit. On va également trouver ça dans des versions salées. vous en parler juste après, justement, les versions qu'on va trouver en salé. Donc, pour vous expliquer, par exemple, le gâteau invisible, en fait, va y avoir une certaine proportion de fruits par rapport à une proportion de pâtes qui est beaucoup plus petite, si vous voulez. Notamment, là, pour le gâteau invisible aux pommes, on va avoir énormément de pommes pour très peu de pâtes à gâteau.
C'est pourtant un gros gâteau.
Pourtant, c'est un gros gâteau, oui, mais c'est parce qu'en fait...
Ouais, j'avoue que rien que la photo donne envie quand même.
J'ai envie. Hein.
En fait, la portion de pâte à gâteau va être absorbée par les pommes qu'on va couper très très fines. On va couper les pommes en tranches très fines. Et au fur et à mesure qu'on va les ajouter à la pâte à gâteau, elles vont petit à petit, j'y arrivais, à être absorbées par les pommes, ce qui fait que la pâte va en quelque sorte disparaître au moment de la cuisson. Et on va très peu l'avoir, la pâte à gâteau, et c'est donc pour ça qu'on donne ce nom de gâteau invisible.
Et j'étais à deux doigts de ramener une assiette et de dire voilà.
Chérie, t'es pas contente, je t'ai fait un gâteau invisible.
Je vois gâteau invisible.
Voilà, le gâteau est prêt.
Mais on vend bien de l'air.
C'est vrai.
Mais oui,
vrai.
Bah non, mais oui.
Vraiment, t'es quand même vrai, jamais, t'es quand même jamais contente. Hein. Je te fais un gâteau invisible et t'es pas contente encore.
Et là, il y a une version salée que j'ai à l'écran ici.
Oui, oui, c'est vrai, voilà. Que la version salée, sympa aussi.
Avec de la pomme de terre, ouais. Je suppose.
Ah, c'est salé.
Alors, dans la version salée, on peut trouver notamment la première image, ce sont des courges. Butternut, potimarron, voilà, on peut adapter. La deuxième version, c'est une version raclette avec pommes de terre, fromage à raclette au milieu et du jambon cru.
Celle-là, je prends.
J'ai bien envie de la tester un jour, ouais, je suis d'accord. Bon. Bon. Et la troisième version, alors c'est plus une forme de terrine où là, on va avoir tout ce qui est courgettes, carottes râpées, il me semble. Et là, ça va se présenter un peu plus en terrine, mais ça fonctionne aussi ça très bien dans cette version-là.
J'avoue.
Je précise ceux qui écoutent en podcast, je pense toujours au futur, je le dis pour chaque chronique, vous pouvez retrouver la version visuelle sur YouTube. Comme ça, on parle d'images. Pour ceux qui ne font qu'écouter sur Spotify, Deezer, allez sur YouTube et vous aurez
la vidéo
du live. Vous aurez les images.
Pour votre appétit, ça va être délicat.
Voilà, on va tenter à l'oral de vous faire...
Voilà, mais on peut vous rassurer, ça a l'air très bon. Voilà.
Ah oui, non, mais direct.
Oh,
voilà,
oui.
Là, j'avoue.
Ouais. Ouais, ouais. Direct.
Mais du coup, j'ai testé moi-même la version sucrée classique du gâteau invisible aux pommes pour la première fois. Et je peux vous dire que c'est très facile à faire, même pour quelqu'un qui débute. Le plus long, ça va être d'éplucher toutes les pommes et de les couper en tranches très fines. Avec dans la recette que je vous propose 1,5 kg de pommes pour un gâteau de 6 personnes, 6 parts, ça fait beaucoup de pommes, ça prend du temps à tout éplucher et à tout couper en très fin, mais n'empêche que ça vaut le coup.
Est-ce que tu pour faire des tranches aussi fines, tu peux pas le faire à l'éplucheur ?
Je pense qu'on peut, j'ai pas testé.
La mandoline,
moi, j'avoue que j'ai fait
la mandoline ou un truc comme ça.
Avec une mandoline, il y a moyen que ça aille vite. Ouais. J'ai pas de mandoline chez moi, mais j'y ai pensé et je pense que ça pourrait être très sympa à faire. Gâteau 6 parts chez moi.
Ça fait 2 personnes. Ah, ça dépend, oui, ça que le nombre de parts. Ça dépend le nom. Ça dépend de votre appétit.
Bah ouais, j'avoue que le gâteau là, qu'on avait, il aurait pu faire 4 repas au lieu de 6. Hein, mais... non, ça fait quand même des bonnes parts en vrai, 6 parts là, pour cette recette-là en tout cas.
1,5 kg de pommes quand même, hein, les gars.
Ouais, dans les ingrédients, vous avez quand même 1,5 kg de pommes, mais vous allez voir qu'en comparaison pour la pâte à gâteau, au final, c'est quand même beaucoup moins qu'une recette de gâteau classique. Mmh. On a là 100 g de farine, 50 g de maïzena, donc une cuillère à café de levure chimique, 18 centilitres de lait, 3 œufs, 75 g de sucre et 40 g de beurre fondu. Et là, j'ai ajouté un petit peu de vanille pour donner un peu plus de goût. Donc voilà, pour la préparation, c'est très très simple. On commence déjà par préparer la pâte. On ne commence même pas par éplucher les pommes, parce que si on commence par ça, les pommes, elles vont s'oxyder avec l'air. En fait, il faudra les ajouter au fur et à mesure dans la pâte à gâteau, au fur et à mesure qu'on les coupe. Sinon, elles vont s'oxyder, elles vont noircir à l'air si on les laisse de côté d'avance. Donc il faut éviter de le faire. Donc voilà, on commence par la pâte à gâteau. Donc voilà, dans un saladier, donc on va mélanger les œufs, le sucre, quand on se jure par ça, on ajoute le beurre fondu qu'on fait fondre à l'avance et qu'on laisse un peu refroidir. Faut pas non plus qu'il soit trop chaud quand on ajoute, sinon les œufs vont commencer à cuire. Avec ça, donc l'extrait de vanille, on fouette le tout et à la fin, on ajoute donc farine, maïzena, levure et une pincée de sel que j'ai pas précisé là, mais voilà, une petite pincée de sel dans une recette sucrée, ça relève toujours un petit peu le goût, un peu plus que d'habitude si jamais vous le savez pas. Voilà. Donc voilà, on mélange le tout jusqu'à ce qu'on ait une pâte homogène. Et à la fin, on rajoute le lait petit à petit. Et on va obtenir donc une pâte à gâteau qui est assez liquide au premier abord, mais c'est normal. Normalement, les pâtes à gâteau classiques, on va avoir des pâtes qui sont assez, assez épaisses, qui vont former une sorte de ruban, généralement, quand on va verser dans le moule. Si jamais vous en avez déjà fait, normalement, on remarque un petit peu le ruban qui va se former. Là, cette pâte-là, elle sera vraiment pas trop liquide, mais elle est quand même bien bien liquide déjà. Et c'est normal parce que justement c'est ce qui va faire que la pâte va être absorbée entre guillemets par les pommes au fur et à mesure qu'on les ajoutera ensuite. Donc voilà, donc il faut un saladier assez grand hein, déjà de base, ça c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais il faut un saladier vraiment assez grand dès le début parce qu'avec voilà, pour ajouter les 1,5 kg de pommes derrière, il faut quelque chose d'assez grand.
C'est même une bassine, limite.
Moi, voilà, je me suis un peu fait avoir, mais ça a fonctionné quand même. J'avais un saladier qui était juste, mais ça allait. Donc, ouais, on peut montrer d'ailleurs sur les photos que par la suite, que j'ai illustré au niveau des recettes.
Je passe à la
voilà.
Suite.
Ouais. Donc voilà, ça, c'est la préparation de la pâte à gâteau. Donc voilà, avec les œufs, le sucre, le beurre.
Donc même rien que
farine.
Ça, ça donne envie en fait.
C'est ouais, ça. Non, bah oui.
Rien que ça, c'est.
Voilà, et donc et juste après, donc ensuite, c'est la préparation des pommes. Donc voilà, on enlève le cœur, on les épluche évidemment, et on va tout couper en tranches assez fines, le plus fin possible. Moi après, bah, du coup, j'avais quand même des tranches à la fin qui étaient assez épaisses parce que bah, j'ai fait à la main, j'avais pas de mandoline, mais je pense que c'est largement possible de le faire à la mandoline. Donc voilà, au fur et à mesure qu'on les coupe, on les ajoute bien à la pâte et on mélange en même temps au fur et à mesure pour qu'elle s'imprègne bien de la pâte à gâteau. Et une fois que tout ça c'est fini, eh ben, on met ça dans un moule qu'on a beurré. On peut mettre par-dessus, ça c'est facultatif, 2 cuillères à soupe de sucre de canne, de cassonade, pardon, de sucre cassonade pour faire dorer un petit peu le gâteau au moment de la cuisson. Hop, et du coup ensuite on va pouvoir enfourner donc à 180 degrés pour 50 minutes. Voilà, il y a quand même 50 minutes de cuisson, c'est assez long. Faut pas que ça cuise trop vite non plus, faut pas mettre le four trop fort. Si vous avez un four à chaleur tournante, il faut plutôt le mettre à 165 degrés. Et voilà, moi donc le mien il met un peu de temps à chauffer, donc je l'ai mis à 180 pendant 50 minutes. Et ça suffit du coup largement. Voilà, voilà.
Et
donc à la fin, donc j'ai essayé de vous montrer du coup une photo du rendu. Donc on voit très bien toutes les pommes qui sont déposées au-dessus. Limite, on se demande où est le gâteau en fait.
Ah, il est invisible.
Mais clairement, voilà, en coupant, c'est vrai que on voit peut-être pas très bien, mais généralement on voit quand même bien de près les différentes tranches. Et au final, on voit très très peu la pâte à gâteau ensuite derrière. Et donc voilà, et je peux vous assurer que c'est très très bon, c'est très fondant, ça donne un gâteau au final très fondant. Et franchement, c'est le top, je pense que c'est une très bonne alternative au gâteau classique, où là au final il y a quand même moins de gâteau. Je pense que ça va être un poil plus diète aussi, parce que c'est quand même beaucoup de pommes. À mon avis, on peut même retirer le beurre dans cette recette-là. Je testerai ça, parce que j'aime bien justement faire des versions diète de mes recettes, des fois, où je retire les matières grasses, je les remplace par d'autres qui sont meilleures, je diminue le sucre également. Donc, ouais, je pense que c'est totalement faisable.
Alors moi, j'aime bien faire des versions alcoolisées. Là, j'aurais mis un peu de cidre de pomme, par exemple.
Allez.
En vrai, oui, mais complètement.
Il a joué qu'il allait me sortir du rhum.
Ouais, un litre. Un litre de rhum, là. Un bon
le
litre.
Le rhum en pâtisserie, c'est. Moi, je dis oui, hein, clairement.
Je dis oui, non. Un grand oui.
Les crêpes sans rhum, c'est pas possible, ça.
Le but, c'est pas de dire oui ou non, c'est de dire combien.
Ah oui, non, faut pas abuser non plus.
Et du coup, ça pourrait être une idée de concours, hein, faire gagner à quelqu'un un gâteau invisible. Pourrait être une idée aussi, hein.
Et vous voyez par
un gâteau invisible, mais vraiment invisible par contre. Là,
hein. Non, là, pour
ah
coup,
bah ouais. Oui, ouais, ouais, pour le coup. Ouais.